retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Si je suis accro à quelque chose, c'est bien au patient expert. Et c'est bien au tiers aidant. Je pense que dans beaucoup de pathologies, et particulièrement dans ces pathologies d'addiction et les pathologies de santé mentale, hein, d'une façon générale, ce principe de tiers aidant, c'est-à-dire de malade ou d'ancien malade qui aide les malades actuels, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment une petite révolution, hein, dans le domaine de la santé et du soin qui est importante.
Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. La liberté et la santé sont nos biens les plus précieux et l'addiction menace les deux. Scandé dans un épisode précédent, le docteur Löwenstein, président de l'association SOS Addiction. Il est donc tout à fait logique que les addictions représentent un enjeu majeur de santé publique. Mais les combats sont si nombreux en la matière que l'on comprend bien la difficulté pour la politique à se saisir de la question de la maladie de la dépendance dans sa globalité. Les drogues illicites, mais surtout les drogues légales telles que l'alcool, le tabac, la puff qui envahit les cours des collèges et lycées, le HHC, les produits pharmaceutiques sous ordonnance tels que les anxiolytiques, les benzodiazépines et les opioïdes, ou dans une toute autre catégorie mais non moins dangereuse, le sucre, sont des drogues à portée de tous. En outre, ce sont l'alcool et le tabac, ces drogues licites recouvertes d'étiquettes préventives qui tuent le plus aujourd'hui. Coïncidence, nous allons en discuter, je l'espère, avec mon invité. Médecin urgentiste, puis président de SAMU Urgences de France de 2014 à 2022, Monsieur le ministre de la Santé François Braun et son ministère ont pour mission de prévenir, de réduire les risques, de faire baisser le nombre d'usagers, de décès, de limiter l'introduction de nouvelles drogues de synthèse sur le marché et d'accompagner ceux qui frôlent ou embrassent l'addiction. Une mission lourde de sens et d'action, avec près de 120 000 morts par an causées par l'alcool et le tabac. Pour se faire une idée plus concrète, ce serait l'équivalent d'un Covid par an. Les conduites addictives demeurent un problème majeur de santé publique et de société en raison des dommages sanitaires et sociaux qu'elles induisent, ainsi que de leurs coûts pour les finances publiques. Ainsi, prévenir est une nécessité et intervenir une urgence. Mais quels sont les moyens dont dispose le ministère de la Santé pour cela ? Merci de nous accueillir justement au ministère de la Santé et de la Prévention ce jeudi 8 juin, journée nationale de l'anniversaire de mon fils. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour, bienvenue et bon anniversaire
Merci, votre fils. À Solal. Je suis ravie d'être ici. Déjà, je me sens extrêmement intimidée. Je suis très fière d'être devant vous. Voilà. Pour moi, c'est un peu un aboutissement de quelque chose après 40 épisodes.
Bah, écoutez, merci. Effectivement, le sujet addiction est un sujet majeur et je suis ravie de pouvoir en parler avec vous.
Merci beaucoup. Alors Monsieur le Ministre, quelle est votre définition de l'addiction ?
Ah, ça, c'est une question qui est difficile.
En quelques mots. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, hein, vraiment, hein, pas forcément politique. Hein.
Oui, c'est un abus de quelque chose dont on ne peut pas se passer. Voilà, je crois que c'est ce qui me vient présent à l'esprit. Et vous avez raison quand vous décrivez plein de choses comme l'addiction. Le sucre, effectivement, peut être une addiction. Tout peut être une addiction dès lors qu'on n'arrive plus à s'en passer.
Après, moi, je parle de drogue. Est-ce qu'on peut parler de drogue à partir du moment où ça tue?
Je crois que le principe de le terme drogue peut être un peu restrictif dans le cadre des addictions. Je dis peut-être n'importe quoi, mais rouler vite tout le temps, ça peut être une addiction aussi. C'est l'addiction à la vitesse, par exemple.
À l'adrénaline.
Voilà, tout ce qui est adrénaline. Probablement que mon ancien métier d'urgentiste était aussi une addiction, puisque on comprend facilement que dans les services d'urgence, on fonctionne un peu à l'adrénaline.
Complètement. Alors, quelles sont les actions menées qu'est-ce qui concerne le gouvernement en matière d'addiction et plus précisément le ministère de la Santé, mais déjà, même avant de prévenir, ou parce que vous avez parlé beaucoup d'aller discuter dans les écoles, pour moi, ça commence bien avant la prévention des drogues. Ça commence au niveau de la santé mentale.
Si vous voulez, mon boulot dans la santé, en fait, quand on parle de santé, en France, un peu partout, mais surtout en France, on parle beaucoup trop du soin. C'est-à-dire qu'on est concentré sur soigner, qui est une très bonne chose, qui fait qu'on a un système de soins qui est quand même très bon en France, malgré ses difficultés. Moi, ce qui m'intéresse dans la santé, c'est de le voir dans sa complétude. C'est-à-dire qu'on part de la prévention, avec tous les modes de prévention, hein, comment ne pas être malade, comment, quand on est malade, ne pas s'aggraver, etc. Le dépistage, bien entendu, le soin, mais aussi le suivi ensuite. Pas tout soigner quelqu'un, encore faut-il le suivre pour éviter qu'il redevienne malade et on refait cette boucle un petit peu de la prévention. Donc il faut vraiment se concentrer sur le soin bien sûr, mais sur la prévention et d'ailleurs mon ministère s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention et je crois que c'est extrêmement important là-dessus. En ce qui concerne les addictions d'une façon générale, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon un petit peu en tuyau d'orgue, je dirais, qui est de voir addiction par addiction. C'est-à-dire le cannabis, le tabac, l'alcool, le chemsex, etc., etc. Et on décline les différents types d'addictions. C'est nécessaire d'avoir des plans spécifiques pour traiter ces différentes addictions une fois que les gens sont déjà tombés dedans, je dirais. Mais ma préoccupation principale, c'est comment faire pour qu'on ne devienne pas addict, justement. Alors, c'est une vision à plus long terme, hein. C'est plus facile de dire on augmente le prix du paquet de tabac et comme ça, on aura moins de fumeurs et on aura des résultats dans 20 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux plus jeunes, mais vraiment aux plus jeunes, comment faire pour que nos jeunes concitoyens réapprennent à dire non, réapprennent à refuser la première cigarette, à refuser le premier joint de cannabis, etc., etc., et à ne pas tomber dans l'addiction. Et ça, c'est un enjeu qui est multi-partenaire, je dirais, bien sûr l'école, et j'en discute régulièrement avec le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi le cercle familial, et ça dès le plus jeune âge. Toute l'importance du plan qui a été mis en place dans le précédent quinquennat sur le plan des 1000 jours autour de l'enfant, mais qu'il faut continuer ensuite avec un mot qui est un petit peu barbare, on pourrait y venir si vous voulez, qui sont les compétences psychosociales. C'est-à-dire, le grand enjeu, c'est comment faire pour redonner à nos enfants, au plus jeune âge, les compétences psychosociales. Compétences psychosociales, c'est quoi? Si je voulais résumer, c'est trois grands principes. Le premier, avoir confiance en soi. Parce que pour pouvoir dire non à quelqu'un qui vous propose la première cigarette, il faut avoir confiance en soi et dire, non, moi, ça m'intéresse pas. Le deuxième, c'est accepter, comprendre, connaître ses sentiments. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être content, etc. Et le troisième, c'est savoir interagir avec les autres. C'est-à-dire comment je me comporte quand je suis dans un groupe. Et ces trois éléments-là, ils sont pour moi essentiels de la prévention des addictions.
Mais dans ce cas-là, moi j'entends ça parfaitement. Moi, en tant qu'addict abstinente et qui travaille à mon rétablissement, parce que je serai addict toute ma vie, j'ai créé ce podcast pour cela, pour aider les gens à se rétablir, pour libérer la parole, pour apprendre à se connaître, justement. Et aujourd'hui, je découvre des disciplines qui ont changé ma vie. Et je me demande pourquoi elles n'ont pas lieu très tôt. Tout ça, je parle de relaxation, de méditation, je parle de philosophie. Parce que vous parlez de psychologie, mais c'est déjà trop loin pour un enfant. Je veux dire, dès le plus jeune âge, la philosophie apprend vraiment à se connaître soi-même. Enfin, je veux dire, Socrate, Spinoza. Moi, je vois que mon fils, j'arrive à lui faire comprendre des choses parce que je les ai comprises grâce à la philosophie. Pourquoi on va pas parler de votre ministère à vous, mais pourquoi l'éducation nationale est si archaïque? Pourquoi on reste sur des méthodes et sur des programmes qui ressemblent à ceux de nos grands-parents?
Alors, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais je vais être encore plus terre-à-terre, si vous permettez. Encore plus revenir vraiment à des choses très, très basiques. Le sport.
Le sport, j'ai oublié.
Le sport. Alors après, vous allez me dire qu'on est addict au sport.
Non.
Ce qui peut être vrai aussi. Hein,
oui.
Ce qui peut être vrai aussi.
Mais moins grave.
Le sport, en fait, ça coche toutes les cases. Parce que quand vous faites du sport, vous pouvez être fier de vous. Encore faut-il que vous soyez bien encadré, que ce soit pas un sport culpabilisant, tu cours pas assez vite, etc. Mais on renforce un peu l'image de soi. On comprend ses sentiments, on a gagné, on n'a pas gagné, etc. Et puis surtout, on interagit dès lors qu'on fait du sport en équipe. C'est pour cela qu'avec avec la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, nous poussons pour que le sport santé, finalement, remette cette image du sport, c'est bon pour la santé. C'est pas que des mots, ça marche très vite, ça marche en prévention. Ça marche en prévention pour les addictions. Et ça marche en prévention pour plein d'autres pathologies. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant.
Pas pour les jeunes qui sont dans des milieux.
Donc, vous voyez, même sans forcément aller chercher des explications très, très, bon, qui sont nécessaires. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on a de remettre tout sur l'éducation nationale au grand sens du mot. Bien sûr, elle a son rôle à jouer, mais la cellule familiale a un rôle essentiel aussi à jouer dans cette prévention des addictions. Par justement ces échanges, parce que le fait que vous discutiez avec votre fils plus facilement, parce qu'on déstigmatise tout ça, il y a tout un côté aussi caché hein, autour des addictions, on n'en parle pas, mais je crois qu'il faut en parler aux enfants assez tôt, faut leur expliquer que c'est dangereux, et puis leur proposer des alternatives, comme le sport, comme la lecture, comme plein d'autres choses.
Ouais, c'est compliqué de proposer un petit livre à la place d'un joint, mais je parle de l'éducation nationale dans le sens où même le sport, il y a d'autres pays où on a compris que le sport devait faire plus partie intégrante d'une journée, que nos enfants sont moins attentifs. Voilà, c'est pour ça que je parle de, et ouais. Peut-être il y a beaucoup d'anxiété à l'école. Moi, je vois beaucoup de phobies scolaires et je trouve ça quand même très dommage qu'ils passent 8 heures par jour dans quelque chose qui est assez compétitif, assez élitiste quand même, Moi, je vois vraiment du vrai stress à l'école. Je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas à méditer ou à justement arrêter de se comparer aux autres. Voilà, je pense que c'est ça qui donne envie de se droguer.
Après,
c'est la culpabilité.
Ce gouvernement a changé quand même les choses, puisque là, le gouvernement a fait rajouter une demi-heure d'activité physique en primaire, tous les jours. 2 heures de sport en plus en collège par semaine.
D'accord.
Donc on voit bien que c'est en train d'entrer dans le quotidien. Ça va entrer. Il y a une compréhension, une acceptation globale maintenant qui est importante autour de ces enjeux. Et puis les magnifiques événements sportifs qu'on va vivre là, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, vont nous permettre justement de capitaliser un petit peu sur ça.
Bon, il faut se rendre un petit peu à l'évidence aussi que les messages qui disent de limiter l'abus d'alcool, de fumer tue, ou alors ça rend stérile, ou alors ça nous fait perdre les dents, enfin tous ces trucs-là, ou le fait d'avoir une petite femme enceinte sur les logos. Aujourd'hui, c'est quand même un peu limité en pouvoir de persuasion. Les campagnes publicitaires, les propositions de loi, les messages du gouvernement, est-ce qu'ils ont un réel impact sur la réalité? Est-ce que vous avez des études concrètes sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas?
Alors, c'est les canaux de communication, les messages doivent être très différents en fonction des types d'addiction. Et c'est là que c'est effectivement difficile, aussi parce que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Sur le tabac, par exemple, on sait ce qui marche très bien sur le tabac, c'est le prix, hein. Il faut pas se voiler la face hein. Quand le prix du paquet de tabac a augmenté, ça a diminué.
Pour commencer,
ouais.
Non, pour commencer à fumer, mais pour le continuer. Fumeur, moi, je vous explique, je roule pas sur l'or, tout le monde le sait, j'arrête pas de le dire. Je suis une grande fumeuse. Moi, qu'on augmente de 50 centimes ou d'un euro, je vais continuer à fumer. J'ai arrêté il y a 5 jours. Donc, c'est pour ça que je suis un peu nerveuse là. J'ai arrêté il y a 5 jours et je pense que c'est pas pour le prix, hein. Voilà. Et je pense que c'est d'autres choses qui m'ont aidé à arrêter.
Ça en fait partie.
Mais pourquoi ne pas monter d'un coup un paquet à 30 euros et que ça soit terminé?
Alors déjà, c'est pas sûr que ce soit terminé parce que là, pour le coup,
je pense que ça fout un petit.
Il y a une réflexion, globale qui dit qu'il y a un développement majeur de la contrebande. Avec des paquets beaucoup moins chers, de la vente transfrontalière, etc. Donc on voit bien que c'est un problème qui est plus global.
C'est global.
Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que là aussi, dans le domaine de la santé, d'une façon générale, la solution miracle, ça n'existe pas. Si, les antibiotiques, quand ils n'existaient pas et quand on les a fait exister, mais il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est un ensemble de solutions. Il y a le prix qui joue, forcément. Il y a ensuite l'information, c'est le paquet neutre. On sait que ça a marché aussi. Voilà, les photos affreuses qu'on voit sur les paquets de tabac, ça marche aussi. Chacun marche un petit peu. Donc, il faut utiliser toutes les voies qui sont possibles. D'une façon plus générale, moi, dans la prévention, je suis assez hostile aux messages culpabilisants. Je pense que c'est plus la, on n'est plus dans les messages de la tuberculose des années 30, si vous voulez, si je peux me permettre. Mais voilà, les messages doivent être beaucoup plus positifs en disant c'est bon pour votre santé. Voilà, c'est pas avec ça vous allez vous sentir mieux. Vous savez, on parlait du sport là. Le sport, si vous prenez vous prenez plus systématiquement l'ascenseur, vous arrêtez un étage avant, vous montez un étage à pied, en station de métro vous vous arrêtez ou en station de bus une station avant pour marcher, etc. Vous allez, c'est pas grand chose qu'on demande. Vous allez voir des résultats très vite sur votre état de santé. En un mois, deux mois, vous allez vous sentir tout de suite mieux. C'est ça qui permet d'avancer.
Tout à fait.
Dans les addictions, c'est pareil. Mmh. Le tabac, vous parliez d'avoir arrêté de fumer depuis 5 jours. Bravo.
Mais vous avez raison. Mais... ce n'est pas par peur et ce n'est pas par message négatif. C'est
par
pour
envie de...
obtenir quelque chose de meilleur, voilà. Pour une liberté. Pour
et
une
à
sérénité.
Titre individuel.
Oui, exactement. Et pour justement arrêter cette culpabilité, parce que quand on est fumeur, si c'était l'intelligence qui était en question, ça se saurait. L'intelligence et la volonté, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des fous et qui ont beaucoup de détermination et qui sont très intelligents et qui fument comme des pompiers. Je pense que ce n'est pas ça du tout le sujet. C'est vraiment d'arriver à trouver une force plus grande. Je suis obsédée par Le Petit Prince derrière parce que c'est vraiment, pour moi, c'est la philosophie.
Il y a des très belles
images. Non, mais c'est vrai, il y a des belles images qui, pour moi, Saint-Exupéry a changé énormément de choses. Les métaphores dans ce livre sont extraordinaires, même au niveau de l'addiction. Il y a beaucoup par rapport aux archétypes, de, par exemple, de celui qui travaille trop, de celui qui croit qu'il doit apprendre toute la journée, mais qui finalement ne sent plus l'odeur d'une rose. Bon, enfin, voilà. C'est un petit aparté, je vois ce dessin merveilleux. Moi, c'est exactement cette histoire de Saint-Exupéry, c'est de voir la beauté des choses plutôt que les mauvaises choses. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que je veux avoir des belles dents, que je veux avoir une belle peau, que je veux pouvoir monter des escaliers, je veux plus être le matin à 9h au tabac un dimanche matin parce que j'ai peur de pas avoir de cigarette. Et c'est un attrait de la liberté, voilà. Et je pense que vous avez raison, il va falloir faire des messages positifs qui montrent qu'il y a des choses merveilleuses qui attendent les gens qui sortent.
On est beaucoup plus libre quand on n'est pas addict que quand on est addict. Or souvent, l'utilisation de stupéfiants, le message, les messages issus, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais qui sont des messages issus des années 70, 75, qui étaient, vous allez être beaucoup plus libre par l'usage de stupéfiants. Alors c'est exactement l'inverse.
C'est un autre sujet dont j'aimerais même discuter, mais les psychédéliques et les drogues sont encore différents.
Oui. c'est sûr. Mais je donne juste un exemple par rapport au. Alors, il faut des interdictions, hein, bien sûr. On est dans une société où il y a besoin d'interdictions, mais les déviances arrivent tout de suite. J'étais il y a 3 semaines à Stockholm avec les ministres de la Santé européens. Et je me promenais dans Stockholm, le petit temps qu'on avait. Et je disais, c'est étonnant, il faisait très très beau, frais mais très beau. Et personne ne fumait sur les terrasses. Alors que vous passez à Paris, ça n'arrête pas. Et je demandais, je demandais à l'ambassadeur, mais on ne fume pas sur les terrasses, c'est étonnant. Il me dit, non, c'est interdit.
Comment en Espagne?
Alors, c'est étonnant. Et il y a moins de... Non, mais vous allez voir, c'est interdit. Mais par contre, ils prennent du tabac au niveau de la joue. C'est une espèce de, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est snouf ou quelque chose comme ça.
C'est grave, ça.
Et voilà, on voit une dérive. C'est-à-dire qu'en termes de santé, en termes d'addiction, ce n'est pas forcément meilleur. Donc, l'interdiction en elle-même dévie vers d'autres addictions. On voit bien l'évolution des addictions. Puis en plus, ceux qui favorisent, si on parle des stupéfiants, développent, on parlera peut-être du HHC ou de choses comme ça, qui permettent de détourner vers d'autres addictions. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale. Mais le côté prévention individuelle, je fais ça pas que pour les autres, je fais ça d'abord pour moi, parce que je vais me sentir mieux, c'est ça qui est important.
Vous avez raison, tout à fait raison, parce que j'allais vous poser la question, on m'a parlé de ça en Espagne, j'ai une amie qui est à Palma de Mallorca qui me dit c'est génial, ou je ne sais plus où, dans d'autres endroits dont on m'a parlé, où on n'avait pas le droit de fumer, il fallait se lever pour fumer, et les gens n'ont pas envie tout le temps de se lever pour fumer, donc ne fumez pas, et donc je trouvais ça génial. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que quelque part...
Bon, on détourne.
On détourne, oui, il peut y avoir. Et puis surtout, c'est...
L'interdiction n'est pas tout. Elle est nécessaire parce qu'on vit en société. Dans la société, il y a forcément des interdits par rapport à son attitude vis-à-vis des autres. Mais ça ne suffit pas, on le voit bien.
On le voit bien aussi avec le cannabis, parce que c'est la répression. Là, on est pour le coup, on est le pays qui est un des plus consommateurs de cannabis, plus que ceux qui autorisent. Donc, pourquoi ?
Après, c'est très difficile de faire vraiment des comparaisons. Hein. C'est-à-dire qu'on met souvent en avant en disant qu'il faut légaliser le cannabis, ça va faciliter, etc. En fait, il y a Il y a du détournement là aussi vers d'autres usages, dès lors que le cannabis est, et le Canada l'a bien montré d'ailleurs, que le cannabis est en accès libre, entre guillemets, on pousse, déjà on augmente les taux de THC à l'intérieur du cannabis, qui devient plus du tout la drogue récréative, mais beaucoup plus qui s'apparente à une drogue dure, et donc nous on est de nouveau accro et on va rechercher des effets supérieurs et on repart sur des choses interdites. Bah, c'est pas une solution, là aussi c'est pas une solution.
Non, et puis le cannabis, moi je pense que ça peut devenir une drogue dure, donc je ne crois pas une seconde que ce soit une bonne idée non plus. Mais bon, la répression, la consommation, c'est vrai qu'il y a un truc à trouver, ça ne doit pas être évident pour vous. J'aimerais pas être à votre place en fait. Hein.
Mais c'est aussi très intéressant parce que c'est quelque chose qui est profondément interministériel, on le voit bien. Avec l'éducation, avec le sport, avec mon collègue de l'intérieur, avec le garde des Sceaux. Enfin, c'est une problématique, c'est une vraie problématique de société.
Complètement. Et pour on parlait de la cigarette, du cannabis. Bon, là, vous avez un peu parlé du HHC. C'est important de savoir que tant qu'une drogue n'est pas interdite, elle est autorisée.
Il n'est pas légal. Il n'est pas interdit.
Il n'est pas interdit, voilà, c'est ça.
Il va l'être bientôt. Enfin, j'espère. Je suis à peu près sûr. Mais il n'est pas interdit. Oui.
Vu les
dégâts. Oui.
Les dégâts et puis ouais, les commentaires des gens. J'ai vu des vidéos cachées, des caméras cachées sur des gens qui essayent et qui disent « Mec, moi, j'ai jamais été aussi défoncé. » Donc, c'est-à-dire quoi? Ils enlèvent le CBD. Enfin, en fait, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le cannabis. Et pourtant,
non, c'est de la
ça s'appelle quand même l'hexahydrocannabinol.
Oui.
C'est une molécule de synthèse purement composée. Semi-synthétique, pas produit du tout par la plante en fait. C'est
très,
le THC
très faible quantité,
plus hydrogène.
Ouais.
Et donc en fait sur les réseaux on voit, ils appellent ça la 30%. Ils appellent ça la 30, je ne sais pas pourquoi. Et donc il n'y a rien de naturel.
C'est une cochonnerie, hein. Ça c'est clair.
Voilà, c'est la MIDELCA, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et des Conduites Addictives. Ça vient de chez vous, la MIDELCA.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Hein.
Voilà. C'est interministériel,
Interministériel.
Ok. Là, j'attends l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui donne son avis sur les produits stupéfiants que je vais avoir là. Maintenant, c'est une affaire de jours ou
deux
semaines.
Voilà. Il faut que ça soit catégorisé dans la stupéfiant.
Dès qu'ils me disent c'est effectivement un stupéfiant, moi, j'ai l'arrêté qui est prêt pour dire on entre ça dans la ligne des stupéfiants et dès lors, c'est interdit.
Mais maintenant, que ce soit interdit ou pas, apparemment, ça se propage bien. Les gummies, hein, c'est ça,
oui,
ils prennent
si
ça
que,
en forme...
Ouais, si ce n'est que là, pour l'instant, d'un point de vue de répression, on ne peut rien faire. Ce n'est pas identifié comme stupéfiant.
Oui, ouais, complètement.
Après, ça tombe sous le coup du trafic de stupéfiants.
Et pour les bombes de chantilly, on fait quoi alors, si c'est pas... Alors ça, c'est le protoxyde d'azote,
un gaz
oui. qui est très dangereux. Des capsules,
ouais.
C'est un gaz hilarant, mais très, très dangereux.
Alors, le protoxyde d'azote, moi, c'est un gaz que je connais très, très bien, parce qu'il est très largement utilisé à l'hôpital. C'est un gaz qui, en fonction de sa proportion par rapport à l'oxygène, peut être soit un produit anesthésiant, donc dangereux, soit un produit qui est antalgique. On fait beaucoup de choses sous protoxyde d'azote dans un service d'urgence. On appelle ça l'antonox, c'est un mésange... On dit équimoléculaire, c'est-à-dire de façon équivalente entre de l'oxygène et du protoxyde d'azote, qui permet par exemple de faire une suture sans que les gens aient mal, de réduire une luxation d'épaule, des choses comme ça. Si on baisse encore sa concentration, on est le gaz hilarant classique. Alors ça peut sembler drôle comme ça, mais ça reste quand même un produit d'anesthésie. Donc c'est quand même un produit qui est dangereux. Et on a vu là, sur des abus avec des concentrations faibles, mais quand vous l'utilisez beaucoup, ben ça augmente la concentration. Des lésions, en particulier au niveau des nerfs, avec des paralysies dont on ne récupère pas, des choses qui sont extrêmement dangereuses. Outre le fait que ça vous met dans un état second, dans lequel vous pouvez faire n'importe quoi, y compris avoir des accidents extrêmement dangereux.
Ce que je trouve assez grave, et qui fait poser d'autres questions, c'est que ce soit des jeunes qui utilisent ça. Il paraît que ça éteint un peu le cerveau pendant quelques secondes, et donc ça crée des lésions. Mais qu'un enfant, qu'un jeune ait envie d'éteindre son cerveau, c'est ça, moi, que je trouve fou.
C'est pas présenté comme ça. C'est là que les gens qui poussent à ces addictions sont très habiles. C'est présenté comme quoi vous allez rigoler.
Ouais, c'est ça.
Mais effectivement, les gens rigolent pour tout, pour un rien. Arrivé plusieurs fois de suturer un enfant à qui on mettait ce fameux mélange et qui rigolait pendant qu'on lui recoue la peau. Mais bon, voilà, nous, on le fait de façon, les médecins le font de façon très... très réglementé, en faisant très attention. En plus, c'est très toxique pour les femmes enceintes, il faut faire attention. Donc vous voyez, il y a plein d'effets, d'effets secondaires. Alors après, c'est utilisé dans des bombes, effectivement, pour faire de la chantilly, en toute petite dose. Le danger, c'est l'accumulation.
Parce que, est-ce qu'il y a une rupture de stock de chantilly? Est-ce qu'on s'est aperçu de ça depuis? Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres drogues comme ça, où soudainement, par exemple, les mélanges que font les jeunes, là, pour faire la purple, comment ça s'appelle? La lean purple, après, c'est des mélanges de codéine et d'une certaine boisson. Donc, d'un coup, on s'aperçoit que les jeunes se trouvent des ordonnances pour avoir tel médicament, pour le mélanger à telle chose.
Mais l'imagination est sans limite. Hein.
Bon, c'est fou, l'être humain pour se droguer est capable de tout.
Des produits, il y a du liquide de frein, il y a des produits, il y a vraiment du liquide de refroidissement. Il y a eu pendant des années l'utilisation du méthanol aussi à la place de, de l'éthanol comme alcool. Alors c'est bien, ça peut juste vous rendre aveugle. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Il faut faire quand même faire très très attention.
Oui, quand je vois comment sont nées les premières LSD, tout ça. Hier j'étais, vous serez ce soir, je crois qu'on va pas se quitter aujourd'hui parce que je serai là aussi. J'interviens à 16h30 au congrès de l'Albatros.
Alors, j'y serai malheureusement pas parce que j'ai une réunion, mais j'ai fait un petit enregistrement pour saluer.
Oui, parce que c'est sous la haute présidence de vous-même.
Oui,
votre absence. Voilà. Elle est marquée très haute même, je crois.
Haute, oh là là, très haute. C'est très gentil. Mais je travaille justement sur ces racines des addictions dont on parlait tout à l'heure avec Amine Benyamina,
voilà,
qui est le président de l'Albatros.
Et de l'hôpital Paul Brousse. Ouais,
et c'est un enjeu, moi, vraiment, qui pour moi est essentiel.
Ah oui, parce que c'est incroyable, parce que la découverte, même dans les années, il y a 3000 ans, de certaines drogues par des peuples qui ont découvert de mélanger telle racine. Donc l'ayahuasca, c'est le mélange d'une racine et d'une autre plante, et c'est les seules possibilités pour créer ce truc-là. À quel moment les gens arrivent à trouver tout ça, quoi?
Après, c'est toute l'histoire de ces produits qui est quelque part... Déjà, il y a une recherche du plaisir en permanence. Ça, c'est quand même très humain. Puis après, il y a une recherche de spiritualité.
Voilà.
C'est comme ça que sont arrivées les drogues, en fait. Hein. C'est comment on se met en contact avec Dieu ou déesse ou tout ce qu'on veut. Mais c'est souvent comme ça que c'est arrivé. Mais quand on regarde, enfin, faut regarder un petit peu l'histoire, c'est un peu intéressant. L'utilisation par les chamans, c'était des utilisations qui étaient extrêmement restreintes. Dans des conditions très particulières, encadrées. Voilà, il n'y avait pas ce côté open bar.
Vous me préparer le lien, en fait, oui, il y a une petite transition nécessaire quand même pour discuter des psychédéliques, parce qu'en effet, hier, j'étais justement à cette conférence sur l'avancée des thérapies assistées par psychédéliques. Il y avait donc un psychiatre suisse, hein, là-bas c'est autorisé, encadré. On s'est rendu compte, évidemment, que... on pouvait soigner beaucoup l'addiction et la dépression par des thérapies psychédéliques encadrées, de micro-dosing de certaines molécules, la DMT, les champignons ou le LSD en font partie, mais attention, encore une fois, c'est encadré. Et il se passe des choses assez incroyables. Alors, il ne faut pas oublier que la drogue rétrécit le niveau de conscience, donc c'est-à-dire que ça rend très très bas, on va dire. Et quand vous dites d'aller chercher la spiritualité, même au-delà de ça, c'est d'aller élargir sa conscience. Et souvent, les gens qui ont eu cet éveil, ce moment d'éveil, soudainement, n'ont plus besoin de tout ça, évidemment.
Tu sais, on dit en médecine la marche thérapeutique, c'est-à-dire le moment où toute molécule est dangereuse, hein, dès lors qu'on l'utilise. Elle est dangereuse ou elle est inefficace. Si vous l'utilisez à un taux trop faible, elle est inefficace. À un taux trop fort, elle est dangereuse. Et entre les deux, cette marche thérapeutique qui peut être extrêmement étroite pour certains produits et donc extrêmement dangereuse à manipuler. Après, tous les essais qui sont faits de façon tout à fait coordonnées, licites, réglementaires, sont bons à voir.
Est-ce que nous, en France, on pourrait, à un moment donné, permettre cette recherche sur ce sujet-là?
En France, il y a des règles très précises sur la recherche, quel que soit le produit, et dès lors que vous respectez ces règles, vous pouvez faire des travaux de recherche. Ça, il n'y a pas.
Et est-ce que si les résultats sont bons et prometteurs, est-ce que vous pensez que la France est prête à accepter ça? Les thérapies assistées par psychédéliques avec des psychiatres, bien sûr, hein, c'est des médecins. Attention, c'est pas des chamans. Hein.
Oui, je ne sais pas quoi vous répondre à ça parce que
c'est pas
à partir du moment où quelque chose est un traitement est efficace Bien sûr, il est mis à disposition. On peut parler de tout ce qu'on a fait, y compris au niveau de l'Europe, pour des médications très innovantes, pour pouvoir les mettre à disposition rapidement. Mais encore faut-il qu'on ait les études avant qui montrent bien que c'est efficace.
Oui, parce que bon, les antidépresseurs, aujourd'hui, c'est chouette, mais disons que c'est à vie, hein, souvent. Et puis le problème des anxiolytiques, c'est que c'est une drogue addictive quand même aussi.
Quelque part, tout peut être addictif.
Et ben justement, c'est les psychédéliques, c'est-à-dire c'est ce qui ressortait hier de la conférence, hein, c'est que ce ne sont pas des produits addictifs à la base. Bon, ça c'est un sujet donc pour
l'instant. Oui, après on a l'addiction physique, la dépendance physique, on a l'addiction psychologique. Vous savez bien, enfin vous qui fumez, vous avez l'addiction à la nicotine, puis vous avez l'addiction au geste aussi.
Complètement.
Et il faut se débarrasser des deux.
Oui, oui, mais
c'est pas facile. Et le geste n'est pas quelque chose qu'on intègre forcément.
Tout à fait. Est-ce que, d'après vous, le regard de la société sur cette maladie de la dépendance est juste ? Est-ce que déjà, est-ce que quand vous faites des campagnes ou quand vous parlez des addictions, vous mettez bien en avant que ce soit une maladie et que le regard de la société puisse être un peu plus indulgent et moins culpabilisant, parce qu'on a l'impression quand même souvent que la majeure partie des gens pensent que c'est une question de volonté, ou que c'est un ivrogne, ou que c'est quelqu'un qui fait rien de sa vie, et tout ça. Il y a quelque chose de triste là-dedans, à mon sens.
Oui, vous avez raison. Il faut vraiment intégrer ça dans les maladies. Et vous ne faites pas exprès d'être malade. Voilà, vous avez pris certes peut-être un produit un jour, mais ensuite vous tombez dans l'addiction, si on peut s'exprimer ainsi, et ça devient une maladie. Et cette maladie, il faut la traiter. On est dans la deuxième phase un peu de ce que je vous disais tout à l'heure. On a parlé prévention. Maintenant, on est dans le soin. Et le soin, ça veut bien dire qu'on est malade. Mm-hmm. Et ce sont des maladies qui sont très, 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 très difficiles pour s'en sortir. Hein. Revenons à des choses, j'allais dire un mot affreux, j'allais dire plus banal, mais c'est pas plus banal, mais
plus
connu, plus commune. L'alcool, par exemple, l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, est une maladie. En dehors du fait que ça peut entraîner plein de choses graves au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des nerfs, c'est une maladie en elle-même et s'en sortir nécessite des soins, souvent très longs, particuliers, avec des rechutes, mais c'est une maladie, oui.
Et les rechutes font partie de la maladie, il faut le savoir aussi.
Les rechutes font partie de la maladie, ce qui est souvent difficilement compréhensible par les malades
proches,
eux-mêmes et
les
par
proches.
Les proches. Donc c'est tout un mécanisme qui est extrêmement compliqué. C'est pareil avec le tabac, on peut arrêter, reprendre, etc. Mais le tout est de pouvoir cheminer dans cette maladie. Après, la vision de la société par rapport à ces malades, d'une façon générale, elle est très étonnante parce qu'elle peut être soit sur un rôle de culpabilisation, un rôle de mépris ou un rôle de normalisation. Finalement, on va culpabiliser celui qui boit trop, mais on va trouver sympa celui qui boit un peu régulièrement. On va mépriser celui qui se drogue dans la rue, mais par contre, on va trouver super cool celui qui fume, machin. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué les relations qu'a la société vis-à-vis de l'ensemble des addictions.
L'alcool précisément quand même, parce que là, on a un gros problème de lobby quand même des alcooliers. Aujourd'hui, c'est quand même.
Moi,
je vois Macron en photo avec de l'alcool. Ça me choque vraiment parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus cancérigène l'alcool que la cigarette, que c'est plus dangereux, que ça tue sur les routes. Ça tue. En fait, c'est la première cause de mortalité. C'est la deuxième cause, je crois même. D'ailleurs. C'est la deuxième cause de mortalité en France.
Tous les abus tuent. Enfin, je crois que c'est.
Non, mais l'alcool, c'est. On reste sur une politique de bon vivant quand même. On reste là-dessus. Ça fait partie du peuple français. On boit, on aime ça et c'est bien. Et quand je dis que je ne bois pas, j'ai au moins 5 personnes qui me disent quoi ?
Et ce qui moi, effectivement, je trouve choquant, choquant, gênant ce que vous dites, c'est ces personnes qui vous disent quoi ? C'est très bien de dire qu'on veut pas boire. Enfin, je veux pas. En quoi on va culpabiliser quelqu'un qui ne boit pas ?
Je vous jure.
Ouais, bon, alors là, on a du boulot aussi à faire.
Mais les pubs, moi, j'amène mon fils ce matin. Bon, il est grand, mais je l'ai amené parce qu'il devait rendre ses livres. Je ne vais pas raconter ma vie non plus. Mais c'était très lourd. Ça, c'est pas normal aussi. Est-ce qu'on peut en parler du poids des cartables ? Donc, j'amène mon fils. Moi qui ne bois plus, je vois beaucoup plus les choses. Mon regard est attiré.
Oui, bien
est
sûr,
attiré.
Beaucoup plus critique.
Et
oui.
On passe devant une pub Jack Daniel, devant une pub. Alors, il y a une pub carrément pour le tonic qui dit « Les trois quarts de votre gin tonic sont composés de tonic ».
Prenez
donc,
le meilleur.
C'est le meilleur.
D'accord.
Mais quelque part derrière, il y a cette image de gin tonic. Et puis, c'est sur le chemin de l'école et c'est en face du Ruy, là. Donc, on est quand même hyper sollicité par des envies de boire. Moi, tout le temps. Et je trouve que c'est... Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait le droit de faire la publicité d'alcool. Vraiment, je vous le dis, comme je ne comprends pas que les influenceurs puissent aussi faire la publicité. J'ai vu qu'il y a une loi. Elle est passée, cette loi, ça y est ?
Alors, elle est en cours. Je ne sais plus si elle est passée. Elle a dû passer ces derniers jours.
Elle a été adoptée.
En première lecture.
Oui. Elle a été adoptée en première lecture. Pour
l'interdiction de faire ce type de publicité par les influenceurs et influenceuses, oui.
Voilà.
Oui.
Je crois qu'elle ne concerne pas ceux qui ont moins de 1000 abonnés. Enfin, voilà, c'est assez sérieux.
Oui, c'est
parce qu'ils avaient le droit de faire d'être payés par des marques d'alcool pour faire la promotion. Et en même temps, il n'y a même pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils n'ont même pas ça. Mmh. Bon, ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est le 1er juin. Elle a été adoptée, voilà, à l'unanimité.
On peut avoir des lois qui sont adoptées.
Bah, magnifique. La dictologie, c'est une jeune discipline. Donc, c'est ça aussi le souci qui évolue grandement quand même et rapidement. Et il y a énormément de choses qui sont faites dans le champ thérapeutique, la montée en puissance des patients experts.
Oui.
Et encore de nombreuses réunions de concertation pluridisciplinaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense vraiment que... il faut que ça soit pluridisciplinaire, non ?
Alors, si je suis accro à quelque chose, c'est bien aux patients experts. Et c'est bien au tiers aidant. Je pense que dans beaucoup de pathologies, et particulièrement dans ces pathologies d'addiction et les pathologies de santé mentale, hein, d'une façon générale, ce principe de tiers aidant, c'est-à-dire de malades ou d'anciens malades qui aident les malades actuels, c'est essentiel.
De père aidant.
De père aidant, oui. Père aidant, tiers aidant, enfin tout ce qu'on peut mettre autour de ça.
Il y a cette notion quand même d'être aidé par quelqu'un qui est comme vous.
Oui, c'est ça. C'est vraiment exactement ça. Et j'ai pu visiter des organisations qui sont basées sur ce principe et qui sont très efficaces. Alors c'est très très chronophage, c'est du temps, mais on voit que les résultats sont là et même les psychiatres me disent oui ça marche, on a moins d'hospitalisation, on a plus de guérison et ça je crois que c'est vraiment essentiel, c'est un vrai changement dans la prise en charge de ces patients, un vrai changement aussi dans la médecine qui de plus en plus accepte que les patients aient leur mot à dire et que les patients participent à leurs propres soins déjà et ensuite que des patients ayant eu la même pathologie j'aime bien appeler ça les soignés, participent eux-mêmes aux soins des autres. Ça, c'est vraiment une petite révolution hein, dans le domaine de la santé et du soin qui est importante.
Alors, je tiens à préciser que, en effet, moi, j'invite beaucoup de gens qui ont réussi à s'en sortir grâce au mouvement des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes.
C'est le principe.
On n'a pas parlé du jeu, mais il y a aussi beaucoup de choses.
Ça, c'est une addiction dangereuse.
Oui, le jeu, en France, c'est quelque chose. J'aimerais vraiment qu'on puisse, que la société, encore une fois, par rapport au fait déjà qu'elle sache que c'est une maladie, mais qu'elle comprenne aussi que les groupes d'alcooliques anonymes ne sont pas des salles de shoot. C'est important qu'on comprenne que c'est des gens qui se rétablissent et que ça fonctionne mieux que toute cure. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne peut pas arrêter de se faire du mal par cette passion. En fait, c'est une passion. En fait, c'est quelque chose de très violent. C'est comme un amour toxique. Sans avoir un désir d'arrêter. Et il faut peut-être pas perdre autant d'argent dans des cures, dans des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que si la personne est mise dans une cure et que ce n'est pas de son plein gré, elle va rechuter. Et on a 100% de certitude.
Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est aussi très, très important. C'est que la médecine est de plus en plus individuel dans sa... Et ça, on le comprend maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, là non plus, de miracle pour tout le monde le même. Alors, bon, on a des pathologies sur lesquelles on sait ce qu'il faut donner, mais de plus en plus, c'est une médecine qui est adaptée à chaque cas. Et ça, c'est très important dans le cas des addictions. Il n'y a pas une seule façon de traiter les addictions, ni même des addictions, par exemple l'alcoolisme, il n'y a pas qu'une façon de traiter l'alcoolisme. Ça va beaucoup dépendre de la personne qui est en face de vous et de ce qu'elle est prête à faire, de quel rythme elle va prendre. C'est très, très individuel, ces prises en charge. Oui.
Mais de toute façon, il n'y a pas une solution. Il faut savoir qu'il faut être entouré à 360 degrés. C'est le docteur Carilla, qui est un des psychiatres des professeurs de l'hôpital Paul Brousse, sous la direction d'Amine Benyamina, qui le dit. Et les groupes des alcooliques anonymes pour cette addiction-là en font partie. C'est-à-dire qu'il faut absolument être aidé par des gens qui ont déjà connu ça. L'identification fonctionne. Et souvent bien mieux que des cures, en fait.
Et vous voyez, là, c'est typiquement mon travail.
Et c'est gratuit.
Et mon travail, c'est de mettre à disposition des soignants l'ensemble de ces outils.
Voilà.
Si on revient un peu plus sur le travail au niveau de ce bureau, c'est de permettre, justement, ce menu dans lequel les soignants vont pouvoir piocher pour les personnes qui sont en difficulté. Cas de la santé mentale, c'est le cas de ce qu'on a mis en place avec mon soutien psy, avec les maisons des adolescents, avec toutes ces structures maintenant qui sont construites et qui permettent de prendre en charge les difficultés de santé mentale et dedans les addictions qui sont considérées comme un problème de santé mentale aussi.
Alors ça rejoint ma dernière question. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui ? Est-ce que votre regard... est différent depuis que vous êtes... je veux dire sur l'addiction, parce qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce que votre regard est différent depuis que vous êtes aux fonctions du ministère de la Santé et de la Prévention ?
Il est forcément différent, et c'est ça qui est passionnant. Alors, est-ce qu'il est différent ou est-ce qu'il est plus riche ? Je vais vous donner un petit élément de comparaison que j'aime bien utiliser et qu'il y a un certain temps, on en discutait avec un collègue étranger. Prenez une boîte en carton. Je vais mettre un objet dans la boîte en carton, et puis je vais faire un trou au-dessus et un trou sur le côté.
Attendez.
Ouais, vous imaginez bien.
J'ai beaucoup de mal à visualiser les choses.
Le cadeau de Noël, là, la grosse boîte.
Ça y est.
Voilà, prenez votre cadeau de Noël. Un trou au-dessus, un trou sur le côté. Vous demandez à quelqu'un de regarder ce qu'il voit par au-dessus. Il va vous dire, je vois un cercle. Et vous demandez à une autre personne ce qu'il voit par le côté. Il va vous dire, je vois un triangle. Bien, tous les deux ont une vue imparfaite de ce qu'il y a dans le paquet, parce que c'est un cône. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, professionnels de santé, la société civile, comme on dit, j'avais une vision assez précise, je pense, du système de santé, des soins, de tout ce qui tourne autour de la santé. Et en arrivant ici, j'ai dû regarder à partir d'un autre axe, et j'ai vu l'objet différemment. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça pour les addictions, c'est ça pour l'ensemble. C'est-à-dire que sortir de cette vision strictement professionnelle, qui peut être très riche et que voilà, qui suffit pour mener une vie professionnelle, et prendre un peu de distance, de hauteur, entre guillemets, avoir une autre vision des problèmes, et dire, bah oui, d'accord, certes, l'addiction, il faut la traiter comme ci, comme ça, etc. Mais quand on prend de la hauteur, on dit, oui, mais... Mon job, c'est aussi de mettre à disposition l'ensemble des outils, d'amener les gens vers ces outils. Donc, c'est un petit peu différent. C'est ça, je crois, qui est passionnant dans ce métier, quand on est issu de ce métier même sur le terrain, mais qu'on prend de la distance pour le gérer au niveau national.
De toute façon, le projet, il est sur jusqu'à 2027. J'ai vu que c'est 2023-2027 pour mener vos actions et pour avoir des résultats. C'est ça qui est noté, hein.
Puisque c'est les plans.
On
fait des plans en France
avec
des
échéances. C'est par rapport au jour où vous êtes rentré en fonction, c'est ça, voilà.
Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi mon côté société civile, hein, qui peut être reproché, c'est de raisonner sur du temps long.
Complètement. C'est pour ça que j'allais
santé,
finir la question.
C'est du temps long.
Bien sûr.
Pas, on va pas régler
Impossible
les choses en six mois, en un an, en cinq ans.
Vous savez, je suis addict et ça fait. J'ai décidé d'arrêter l'alcool et la cocaïne en 2017. Ça n'a eu de cesse que de rebondir et voilà, il y a eu des rebondissements, il y a eu des rechutes. Je trouve de plus en plus de moyens, de solutions. Déjà, en fait, en faisant ce podcast, en aidant, moi,
et
je me rétablis
vous-même,
complètement.
C'est le principe de la pérédance,
mais... Exactement. Et en plus des groupes, évidemment, qui pour moi sont, je préfère le dire, vraiment sont la solution, une solution gratuite et à la portée de tous et partout dans le monde. C'est-à-dire, vous êtes en vacances quelque part, vous trouvez des groupes d'alcooliques anonymes. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, je me rends bien compte que c'est un projet à long terme, même sur toute une vie. Donc, je vous crois et j'espère en tout cas que vous allez lancer durant ces cinq années, justement, de projets à long terme.
C'est mon travail.
Oui, et j'en suis sûre, j'en suis convaincue. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec vous.
À moi demain.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h.
Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de Doublement de Création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.
Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.
IDFM Radio, 98FM.
Tara était une bombe, mais la bombe a sauté. Tara était belle, mais la bombe est tombée. C'était elle qui se pavanait dans des tenues qu'il ne jugeait pas convenables. Elle qui se maquillait sous le regard de milliers d'hommes et de femmes. Elle et ses cheveux longs, la fougue et la flamme de celle qui se voulait libre dans un pays qui n'aime pas les femmes. Pas le droit de danser, pas le droit de poser, ça ne l'a jamais empêché d'oser vivre sa féminité. Tara était une bombe et la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le cintrer, elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle mais la bombe est tombée, tombée. Elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, elle est tombée. C'est la belle qui les menaçait, armée de ses multiples charmes. Et la haine qui l'a emportée, à bout portant et de plusieurs balles. Pas le droit de penser, non, pas le droit de s'aimer. Si je n'ai déjà marié, elle a choisi la liberté. C'est dans sa brève existence qu'elle a donné un peu de sens. Sans un combat si malheureux, mais ça c'était bien trop pour eux. Tara était une bombe et la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le cintrer, elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle mais la bombe est tombée, 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 ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée. Les rues de l'enfer. Tara était une bombe, la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le cintrer, elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle, mais la bombe est tombée, 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 ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée.
I heard you say.
IDFM Radio, 98 FM.
Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. How hard can
tout, 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 tout. Dès que je vois d'autres filles, on en pense tout, tout, tout. C'est pas normal. À chaque fois que j'imagine qu'elle est faite pour moi, je disparais comme par magie. Non, c'est pas normal. À chaque fois que j'imagine qu'elle est faite pour moi, je disparais comme par magie. On s'est vu qu'une fois, mais je sais déjà ce qui se passe entre nous.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda to be in someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, getting kinda used to being someone you love.
IDFM Radio 98 FM.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Mehdi. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches matins entre 6h30 et 8h pour la matinale du week-end. Au programme de votre réveil, votre agenda du dimanche, notre séquence souvenir avec un tube du top 50, la BO d'un film culte et un cocktail de vos plus belles chansons.
Et quand j'appelle ce soir,
ne manquez pas ce rendez-vous musical du dimanche matin entre 6h30 et 8h sur IDFM Radio.
J'ai